Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, l'interview du jour sur RDIWA, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr ou sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, nous recevons dans le cadre du Festival Est-Ouest 2015, consacré à l'Estonie cette année, et qui invite divers auteurs, artistes, dramaturges ou cinéastes. Et là, aujourd'hui, nous avons Eva et Indrek Kof. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tous deux, vous êtes dans la littérature, globalement. Vous, Eva, particulièrement à l'adresse de la jeunesse, dans vos écrits.
Oui, j'ai écrit pas mal pour la jeunesse. Mais maintenant, en ce moment, je suis en train d'écrire mon premier roman pour les adultes.
Et Indrek, vous êtes écrivain et poète aussi, et vous êtes également traducteur.
Tout à fait, donc j'écris un peu de poésie, surtout de la littérature de jeunesse, et comme traducteur, ben, je me consacre surtout à la traduction de romans français contemporains, mais aussi un petit peu de la philosophie, des sciences sociales, etc.
Donc, tous deux, vous vivez de la lettre, du texte, du mot. Est-ce que c'est un exercice facile pour vivre en Estonie actuellement ?
L'écriture n'est pas notre seule activité. Moi, je travaille comme enseignante de français au lycée. Je travaille à mi-temps. Donc, j'ai deux boulots, on peut dire enseigner et écrire.
Pour ce qui est de vivre de l'écriture, en fait, je dirais que c'est très difficile même. Comme en France, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui ne vivent que de leur écriture. Donc, comme Eva vient de dire, elle est aussi professeure de français. Moi, j'ai 36 000 métiers à côté de l'écriture et de la traduction. Je suis aussi interprète. Je travaille de temps en temps pour des visites de haut niveau, par exemple. Il y a un ministre français qui arrive à Tallinn. Assez souvent, l'ambassade de France me contacte pour que je travaille pour eux. Et puis là, à partir de septembre, je travaille aussi pour une revue scientifique qui est consacrée à la littérature et à la linguistique.
Par quel cheminement êtes-vous Adi dans le cadre de ce festival? Qu'est-ce qui fait que vous soyez présent ici aujourd'hui?
Je pense que c'est Isabelle Catois qui est venue en Estonie pour trouver des contacts avec des écrivains estoniens et des artistes estoniens. Et je pense que elle nous a trouvés et Indrek l'a rencontré à Tallinn. Et voilà, du coup, on est ici.
D'une part, être écrivain en Estonie, comme c'est un assez petit pays avec peu de lecteurs, donc si on a publié déjà 4, 5, 6 livres, forcément on est un petit peu connu. Mais d'autre part, pour les gens qui organisent le festival Est-Ouest, ce qui est important aussi, c'est qu'on fait partie de la communauté francophone de Tallinn. Donc, je pense que c'était un petit peu ces deux choses-là qui se complètent.
Alors, on parle de francophonie. Et qu'est-ce qui vous attire dans la littérature française d'aujourd'hui?
J'ai quelques auteurs qui me tiennent vraiment au cœur. Il y a, par exemple, Emmanuel Carrère, dont j'ai traduit le roman L'Adversaire il y a plusieurs années déjà, mais dont je vais aussi traduire Limonov, là, très bientôt. Et cette année, on a eu la chance d'avoir Emmanuel Carrère à Tallinn aussi. Il nous a visités dans le cadre d'un festival littéraire. Donc, il y a Carrère. J'ai traduit aussi deux romans de Michel Houellebecq. Je vais travailler sur un troisième. C'est aussi un auteur que j'apprécie beaucoup. Pas tellement pour son côté scandaliste, mais plutôt pour la qualité de son écriture et pour sa pensée sociologique, si j'ose dire. Et puis bien sûr, il y en a pas mal d'autres.
Qu'est-ce qui détermine la qualité de la littérature ou d'un livre ?
Ah, ça c'est une question très difficile, c'est très difficile de le dire. Je pense qu'en fait, il n'y a pas, on ne peut pas vraiment parler d'une qualité objective. Enfin, il y a quand même une certaine limite au-delà de laquelle l'auteur doit pouvoir faire. Mais après, c'est quand même des préférences personnelles. Pour Houellebecq, par exemple, je me sens bien en le traduisant. Je comprends quelles sont ses manières d'écrire, les différents outils stylistiques qu'il utilise. Et j'arrive, je pense, plutôt bien à les exprimer en estonien. Donc je me sens vraiment bien en le faisant.
C'est-à-dire qu'il existe un langage universel aujourd'hui qui peut être perceptible dans toutes les langues ?
Pas sûr, il faut quand même, en traduisant d'une langue vers une autre, on traduit aussi une société vers une autre société. Une manière de penser vers une autre.
Une expression d'une autre.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas encore au moins d'universalité proprement dite. Il faut quand même adapter des choses. Il faut que le lecteur qui lit la traduction soit capable d'apprécier le texte comme si elle était traduite dans sa langue maternelle. C'est ce que j'essaye de faire sans quand même trop m'éloigner de l'original. C'est ça toute la difficulté de la traduction.
Oui, le lecteur doit avoir l'impression que l'œuvre est écrite dans sa langue maternelle.
Oui, voilà.
Pas traduite, tu as dit traduite. Bien, mais moi je pense que ça dépend beaucoup de l'auteur, parce qu'il y a des auteurs qui sont intraduisibles, dont les œuvres ne peuvent pas être traduites, parce qu'ils sont trop...
Trop ancrées dans la langue
dans laquelle elles sont écrites.
Comme qui, par exemple,
Par exemple,
auteur français.
Par exemple, les œuvres de Céline sont traduites en français, mais je pense que c'est très difficile. Et je ne suis pas très sûre, est-ce que son style et son message passent vraiment.
Si ça peut fonctionner de manière pareille, oui, tout à fait.
Oui, et de la même façon, il y a parmi les écrivains estoniens, il y a des auteurs qui ne seront jamais traduits.
Comme moi-même, par exemple, si tu me permets. Enfin, je vais vous donner juste un exemple d'un livre que j'ai écrit. C'est un livre qui est composé de phrases stéréotypes, c'est-à-dire des phrases que vous pouvez entendre dans la rue, dans un supermarché, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'est absolument pas possible de traduire. Mais ce que nous avons essayé de faire en venant ici, parce que hier soir, on avait une soirée de lecture à Paris, on a fait une petite adaptation d'une partie de ce texte en essayant de rendre la même idée, mais qui puisse fonctionner auprès des Français. Donc je pense que peut-être on va lire le même extrait dimanche matin dans le cadre du festival. Si vous venez, vous allez voir si ça peut fonctionner.
Par rapport à la littérature, vous parliez de Céline, mais vous avez vous aussi des auteurs certainement qui sont intraduisibles. Par contre, est-ce que vous connaissez Exercice de style de Raymond Queneau ?
Oui, absolument.
Voilà, ça, c'est une idée qui vous intéresse ?
Absolument, et c'est quelque chose qui est traduit en estonien. Difficile de dire si ça fonctionne à 100%, mais je pense que c'est quand même assez réussi.
Eva ?
Sur les exercices de style ?
Par exemple, est-ce que vous l'avez travaillé avec vos élèves ?
Oui, j'ai lu des extraits avec mes élèves, mais en français, bien sûr. Je n'ai pas lu la traduction estonienne, donc je ne connais pas la traduction, mais j'aime beaucoup le livre en français. J'adore cette idée et ce livre en général.
Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans ce domaine ?
C'est très difficile de trouver où est le point de départ, ou quand est-ce qu'on décide de faire quelque chose. Parce que souvent, quand moi j'ai écrit ma première pièce, je l'ai écrite il y a 14 ans, donc c'était en 2000, 2001. Et j'ai beaucoup aimé. Et tout de suite après cette pièce, on m'a proposé, en fait, un éditeur m'a proposé d'écrire un livre pour enfants. Et je l'ai fait aussi. Et donc, comme ça, une idée, tu as une idée, tu réalises ton idée, tu as une autre, tu continues. Donc, ça roule en quelque sorte. Mais l'écriture, écrire, l'activité, je l'ai aimée dès mon enfance. Donc, j'ai toujours aimé écrire des petits textes à l'école, etc. Donc, j'ai écrit des petits textes à la maison aussi. Donc, l'écriture, ça a été toujours quelque chose de très agréable et naturel en même temps. Et l'enseignement, je pense que c'est lié au choix de la spécialité à l'université. Donc, après le lycée, j'ai commencé à m'intéresser à la langue française et à la culture française. J'ai fait des études de français à l'université. Et après l'université, c'est tout naturel de essayer de transmettre ça à d'autres. Et voilà, j'ai commencé à enseigner aussi.
Et moi, je dirais que bon, le métier que j'ai choisi, c'est pas en fait un choix, parce que c'est arrivé à moi par une série de hasards, si j'ose dire. Donc tout d'abord, comment suis-je arrivé à la langue française? C'était un pur hasard. Il y avait quelqu'un qui est arrivé, je viens d'une petite ville, donc qui est arrivé, qui était capable d'enseigner le français dans mon lycée. J'ai choisi le français pour des motifs un peu romantique, Edith Piaf, Paris, ça faisait très romantique pour moi. Puis ensuite, je suis entré à l'université pour faire des études de français. Ça, j'étais très influencé par un ami qui m'avait invité pour l'accompagner, qui n'a pas été reçu à l'université alors que moi, je l'étais. Et puis là, la traduction est venue tout à fait naturellement. Ça faisait partie de nos études. J'ai adoré cette activité. Et voilà quoi. Et puis, pour l'écriture, en fait, j'ai commencé à écrire quand j'avais déjà 30 ans. Et c'était, enfin, peut-être pas un hasard, mais c'est venu juste comme ça, quoi. C'était pas un choix délibéré. C'était pas que... Là, aujourd'hui, je décide, je deviens écrivain, je vais écrire. Il y avait une idée, puis il y avait une forme qui s'est imposée à moi comme un peu par hasard quand même. Donc c'était plus fort que moi et il fallait que je le fasse.
Vous êtes dans le Diwa depuis quelques jours, Indrek depuis cet après-midi.
Et... Depuis quelques heures.
Ah,
depuis une heure. Ouais, on vient d'arriver. Ensemble, on vient d'arriver.
Vous êtes submergé par la beauté du paysage.
Bien sûr.
Et absolument.
Bien sûr.
Et en plus, il y a du soleil aujourd'hui, vous avez de la chance. Je voulais savoir le paysage estonien, je ne le connais pas, mais c'est quel type de relief?
Ah, c'est très différent. Je dirais que bon, plus de la moitié du pays, c'est un peu comme disait Jacques Brel, c'est le plat pays qui est le mien. Et puis vers le sud de l'Estonie, et au centre aussi, il y a des collines. Mais des collines qui n'ont rien à voir avec la montagne d'ici, c'est des collines de 200-300 mètres.
Pour les Estoniens, en fait, ce qui est important, ce n'est pas le relief, mais c'est ce qu'il y a en Estonie. On a beaucoup de forêts, beaucoup, beaucoup de forêts vraiment sauvages. Et on a beaucoup de marais, des espaces vraiment des réserves naturelles. Et on a aussi la mer, donc la mer Baltique, donc on a la côte, les plages, tout, donc le paysage est assez ouvert et assez, il y a beaucoup d'espace et beaucoup encore de nature sauvage vraiment, parce que on a la même superficie que la Belgique, je pense, et la Suisse. Mais il y a 1,4 million habitants. Donc la nature ne nous manque pas encore.
Dans la littérature estonienne, est-ce que aussi on retrouve beaucoup la nature, la description, le descriptif de la nature dans les écrits? Est-ce que ça
oui.
prend une grande part
oui,
dans la
beaucoup,
littérature aussi?
Beaucoup, surtout dans la poésie, mais aussi dans la prose, mais surtout dans la poésie.
Oui, et puis surtout dans la littérature classique. Aujourd'hui, il y a de nouveaux auteurs qui arrivent avec de nouvelles idées. Il y a parmi eux des gens qui n'ont jamais, presque jamais quitté la ville, enfin qui préfèrent au moins laisser une image d'un urbain. Donc il y a ça aussi. Puis dans la poésie, il y a aussi pas mal de, comment dire, de poésie très critique envers la société, envers la politique, etc. Mais la nature joue un rôle quand même très important dans la littérature, c'est vrai.
Alors moi, je ne connais pas trop l'univers de l'Estonie, mais la littérature a-t-elle toutes ses libertés pour s'exprimer en Estonie ?
Ah oui, oui, la censure, absolument. C'est fini. C'était à l'époque soviétique, enfin, quand l'Estonie était une des républiques soviétiques, mais c'est fini depuis 1991 où le pays a rétabli son indépendance. Donc c'était la fin de la censure. Et là, on est absolument libre de dire quoi que ce soit.
Et la vie en Estonie est comment, alors, au quotidien ça, je veux dire, est-ce que, par exemple, il y a une difficulté financière, comme dans la plupart des pays d'Europe? Comment ça se passe? Je ne connais pas. Je voudrais avoir votre sentiment d'Estonien sur ce que vous voyez de votre pays. Comment le voyez-vous?
En général, bien sûr, le niveau de vie est beaucoup plus bas que dans l'Europe occidentale, en Allemagne, en France, etc. Mais je pense que ça va pas trop mal non plus parce que comment dire?
Mais par rapport aux pays vraiment pauvres, l'Estonie fait quand même partie du club des riches, si on peut dire. Et puis, ce que je voulais dire sur la situation financière, économique, etc., c'est qu'on fait quand même partie de l'Union européenne et de la zone euro. Donc, on vit plus ou moins au même rythme que tous les pays qui font partie de ce club-là. Donc, il y a une crise financière, c'est une crise qui nous touche tous. Et peut-être, ce qui fait la différence entre l'Estonie et de très grands pays comme la France, c'est qu'un petit pays est touché par une crise très rapidement, mais après, c'est un pays qui arrive à se relever aussi un peu plus vite. Donc ce qu'on a vu, par exemple, pour la dernière grande crise financière qui a commencé vers 2008, on était vraiment gravement touché. Le chômage est monté très vite, il y avait de graves problèmes. Mais puis, la fin, je ne suis pas sûr si on peut encore parler de la fin de la crise, mais quand même, l'Estonie a pu se relever assez rapidement. Donc aujourd'hui, le chômage a beaucoup baissé, reste autour de 5%, je pense, et financièrement, ça va plutôt pas mal.
Et ce qui différencie encore la France et l'Estonie, c'est l'Estonie, c'est un jeune pays, donc elle a maintenant 24 ans. Donc ça veut dire que il y a beaucoup de changements tout le temps. Il y a des changements. Le pays est en construction. Et souvent, les Français qui viennent en Estonie, ils disent qu'ils ressentent ce dynamisme du pays, que les gens sont assez ouverts en fait à tout ce qui est nouveau.
Rien n'est figé, je dirais.
Rien n'est figé encore.
Enfin, il y a des institutions, oui, mais c'est des institutions créées il y a 24 ans. Donc, il n'y a pas encore de... Oui, justement, voilà. Rien n'est figé.
Voilà, je pense que ça donne une certaine dynamisme et jeunesse, ou sentiment de jeunesse à ce pays.
Ce qui est bien et parfois qui n'est pas bien du tout. Il y a moins de stabilité qu'en France, par exemple.
Donc, par rapport à vos textes, Eva, par exemple, sur quelle thématique écrivez-vous, par exemple? Vous avez des thèmes privilégiés dans votre écriture?
Non, je dirais que non. J'ai écrit des textes très différents. Donc, j'ai écrit ma première pièce est écrite, sur le sujet d'un roman d'Emmanuel Carrère qui s'appelle L'Adversaire. Donc je l'ai lu, je vivais en France cette année-là et ça m'a beaucoup impressionné ce roman. Et j'ai trouvé une idée de pièce, je l'ai écrite. Mais après, j'ai écrit beaucoup pour les enfants, donc pour les enfants de différents âges, pour les tout petits de 4, 5, 6 ans et aussi pour les un peu plus grands, pour les 8, 9, 10 ans. Et je ne peux pas dire que j'ai un sujet qui me passionne. Je pense que c'est la vie et l'histoire, les gens qui me passionnent en général. Et là maintenant, je suis en train d'écrire un roman, mon premier roman, et j'essaie de montrer la vie de trois femmes au XXe siècle. Donc il y a une époque, j'écris sur les années 1910 et aussi 1920 et 1930, et j'essaie d'analyser aussi ce qui s'est passé au début de la République estonienne, donc dans les années 80. Donc il y a trois femmes et trois histoires. Et c'est difficile de dire quel est le sujet de mon roman parce que j'essaie de suivre mes personnages dans leur recherche et dans leur...
Elles recherchent quoi, ces femmes?
C'est... Moi, j'écris sur leur jeunesse. C'est-à-dire que c'est la période où ces femmes ont de 16-17 ans jusqu'à 30 ans. Et donc, c'est... Elles essayent de trouver leur voie. Je n'ai pas encore fini. Je suis peut-être à mi-chemin de mon travail. Donc c'est un peu difficile d'analyser vraiment mon travail, mais j'ai fait des recherches sur la vie de ma grand-mère à moi, donc et sur l'histoire de ma famille. Et donc j'essaie de montrer que sa vie à elle était différente, mais en même temps très semblable à ma vie à moi. Moi j'étais jeune dans les années 90, donc j'essaie de mettre, pas en comparaison, mais mettre côte à côte ces deux époques aussi.
Et Indrek, pareil
Moi, c'est pareil. En fait, j'ai écrit des choses sur des sujets très divers et variés. Il y a, par exemple, l'œuvre que j'ai déjà mentionnée est intitulée « De l'identité estonienne ». D'autre part, j'ai une sorte de poème ou un recueil de poésie consacré à l'amour. Puis, j'ai écrit des choses pour les enfants qui sont toutes très différentes. Et là, je suis en train de travailler sur un nouveau recueil de poésie, cette fois-ci, qui sera divisé en trois parties. Les trois parties seront très différentes. Il y a par exemple une partie qui traite de la société et de l'être humain, mais à travers les contes de fées. Voilà, donc il n'y a pas vraiment un sujet sur lequel j'aurais consacré mon œuvre tout entière.
Il existe une tradition des contes aussi en Estonie, avec des personnages emblématiques.
Oui, absolument. Je ne sais pas s'il y a des personnages emblématiques, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tradition de raconter des contes qui était presque morte, je dirais, vers la fin du XXe siècle, mais qui, peu à peu, connaît une renaissance aujourd'hui. Il y a même des gens qui gagnent leur vie en tant que conteurs. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux, trois, qui organisent des formations, par exemple. Et je trouve que c'est quelque chose de très bien. On devrait écouter plus souvent des contes.
Oui, je parlais de personnages emblématiques comme le Chaperon Rouge, par exemple. Alors, par exemple, est-ce qu'il existe une version du Chaperon Rouge en Estonie, par exemple?
Oui, bien ça sûr. Existe tout à fait. Et beaucoup des contes de Perrault existent aussi dans la tradition estonienne, mais peut-être pour ce qui est des personnages qui ressortent vraiment de l'ancienne tradition du conte estonien, c'est toujours lié à la forêt, à la nature, des génies qui habitent dans la forêt et qui peuvent faire des miracles.
Oui, des dieux sylvestres, par exemple. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnages qui sont des arbres, non? C'est ça
Il y a des contes, par exemple, où le personnage principal, en entrant dans une forêt, rencontre quelqu'un. Souvent, c'est un petit vieillard tout gris qui lui demande un service. Et puis, si le personnage lui rend ce service, il sera, comment dire, récompensé. Sinon, il aura droit à un châtiment.
C'est un peu comme le Yoda de la Guerre des Étoiles.
Un peu, oui, si vous voulez.
Voilà. Et vous allez publier prochainement un livre en France. Qu'est-ce qu'il en est de ça? Est-ce qu'il existera une traduction de vos œuvres en France?
J'espère bien, mais je pense que ce n'est pas évident de se faire publier en France. Un de mes livres, ma première pièce justement, est traduite et publiée en France. C'était traduit à l'occasion du festival des cultures nordiques à Caen, en Normandie. Mais sinon, c'est assez difficile, je pense, de se faire publier en France.
Même si aujourd'hui, en fait, il y a de plus en plus d'auteurs qui se font traduire en français et qui sont assez populaires, comme par exemple, je ne sais pas, Andrew Skivirak, dont le roman « L'homme qui savait la langue des serpents », j'ai l'impression que ça fonctionne très bien en France.
Et on est très content aussi pour Pira Traut, c'est une auteure estonienne, auteure pour enfants. Et elle publie, elle a déjà publié beaucoup d'œuvres en français et ça va continuer, si j'ai bien compris. Mais quant à nous, pour l'instant, on n'a pas de.
Il suffira de rencontrer un éditeur intéressé par nos œuvres. Oui.
Eh bien, Eva et Indrek, merci d'être passés.
Merci de nous avoir invités.
Merci.
Bien, merci aussi. Et puis, bonne fin de journée.
Merci.
Au revoir.
Interview.
Au
revoir. Interview.
Okay. The bird.